Cette semaine au balado, le Vinogate et le budget du Québec avec Jonathan Hamel. La crise en Haïti se poursuit. Récit d'un médecin opposé aux mesures sanitaires, sans oublier le grand enjeu de la semaine. Tout ça et bien plus dans votre libre podcast. Bonjour et bienvenue à votre libre podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média. Je suis en compagnie, comme c'est notre habitude, de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour.
Salut Francis.
Jérôme, on a bien hâte de te retrouver au Québec, mais tu es toujours au Mexique. Comment s'est passée ta semaine là-bas?
Bien. Écoute, il faut que je vous raconte une mésaventure que j'ai eue vendredi dernier. C'était la marche de la Journée internationale de la femme ou des femmes. Et donc, à chaque 8 mars, il y a au Mexique et ailleurs dans le monde des marches organisées par des organisations féministes. Donc, je suis à Oaxaca, au Mexique. Je le rappelle, donc une ville dans le sud du Mexique, une ville exceptionnelle, patrimoniale. Comme journaliste, donc je me rends un peu curieux là sur le près du... Enfin, du circuit, là, parce qu'on ne savait pas exactement où les femmes allaient marcher, quel circuit elles allaient emprunter. Donc, j'attends, je vais sur une terrasse, je m'installe. Donc, tout le monde attend un peu de voir qu'est-ce qui va se passer. On met des barricades devant les églises. Bon, beaucoup de certaines présences policières, mais pas nécessairement provocatrices. Donc, tout le monde attend un peu de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va fermer les restaurants? Parce que quand même, au Mexique, ça brasse beaucoup. Les manifestations, de manière générale, c'est quand même assez mouvementé.
Mais là, est-ce qu'on t'a agressé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah oui, la mésaventure, c'est ça. Donc, je me rends à cette fameuse marche. Et finalement, je suis vraiment apostrophé et pris à partie par de nombreuses manifestantes qui se mettent d'abord à scander « Afuera gringo », donc ce qui veut dire en gros « dégage gringo »,« dégage le blanc », on peut dire « gringo », évidemment, qui désigne un Américain. Et là, vraiment, je suis prêt à partir, là, on peut parler de 50, 60, 70 femmes qui m'interpellent. Et oui, donc des menaces là, d'une certaine façon. Et une autre me fait signe directement que si je ne recule pas, je vais recevoir de la peinture aérosol au visage. Et là, tout d'un coup, il y a une sorte de bousculade et je reçois là un coup ou deux là, bon, un peu à la hauteur du visage, mais un coup qui est un peu, disons, dévié là par quelqu'un qui passait au même moment. Donc, ça brassait beaucoup. Et donc, là, je me suis retiré là, parce que, évidemment, je ne veux pas compromettre ma sécurité. Je ne suis pas naïf. Je savais qu'au Mexique, bon, il y a eu une colère dans l'air très forte. Il y a beaucoup de meurtres de femmes, ce qu'on appelle les féminicides. Il y a beaucoup de femmes qui disparaissent. Donc, c'est en Amérique latine. Donc, c'est une situation extrêmement précaire. Donc, il y a quelque chose de compréhensible, évidemment, à ce niveau-là. Moi, je n'ai jamais contesté la légitimité du mouvement féministe au Mexique, sauf que les pratiques, par contre, de certaines d'entre elles sont nettement questionnables. Et j'ai été vraiment, pour la liberté de presse, je trouve que c'est une atteinte inacceptable. Parce que je l'ai dit aux manifestantes qui m'interpellaient, je suis journaliste, je ne suis pas gringo en passant, je leur ai mentionné aussi. Et manifestement, ça n'a pas été suffisant. Mais une petite mésaventure quand même, parce qu'on parle de vraiment... quelque chose de physique, là, c'est-à-dire que on était sur le point de s'en prendre à moi physiquement. Donc, c'est mon travail de journaliste que de me mettre dans l'action une fois de temps en temps. Mais pour la liberté de la presse, là, vraiment, je trouve que c'est inacceptable. Donc, oui, les mouvements sociaux, bon, plusieurs sont légitimes, mais s'attaquer à la liberté de presse, vraiment, c'est quelque chose de sacré, la liberté de presse. Donc, c'est fondamentalement inacceptable que de le faire. Donc, une petite mésaventure quand même là, qui nous fait réfléchir un peu sur le métier de journaliste.
Bon, ben on va espérer que cela ne te découragera pas de faire face justement aux différentes intempéries, à la fois humaines, quelles qu'elles soient, pour nous trouver la meilleure actualité qui est présente aux quatre coins de la planète. Et on espère que tout se passe pour le mieux pour le restant de ton séjour à Oaxaca. Alors, pour les prochains sujets, se joint à nous Jonathan Hamel. Jonathan, bonjour.
Bonjour.
Jonathan, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es un investisseur établi dans la grande région de Montréal. Pour ceux qui suivent Libre Média sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, TikTok, on a pu déjà te rencontrer lors d'une entrevue où on a discuté ensemble de les déboires de la ville de Montréal au niveau municipal. Pour nos auditeurs également qui voudraient te suivre sur les réseaux sociaux, on peut te suivre sur X, notamment au A commercial J-A-M-E-L, H-A-M-E-L, où tu prends le temps de nous renseigner sur une variété de sujets. Et cette semaine particulièrement, c'est intéressant parce que le Vinogate, comme on l'appelle dorénavant, c'est un scandale d'une certaine façon qui a apparu dans la scène médiatique grâce à ton intervention. Alors, parle-nous un peu, là, qu'est-ce que c'est que le Vinogate?
Ben, le Vinogate, écoute, petite anecdote de comment j'ai trouvé, je suis tombé là-dessus. Écoute, je naviguais par temps perdu sur TikTok, puis l'algorithme de TikTok est quand même bien fait pour la découverte de nouveaux contenus, tu sais, local, etc. Tu as des choses très populaires qui passent, mais de temps en temps, tu as une vidéo là, de quelqu'un que tu ne suis pas, mais c'est bien fait pour te faire découvrir du nouveau contenu. Et comme par hasard, j'ai ce vidéo-là qui sort de Pascal Bérubé qui raconte à... Le podcast s'appelle Penche. Politiquement parlant, je connaissais même pas ce podcast-là, tu vois. Puis tu regardes les épisodes sur YouTube, puis il y a quelques dizaines, des fois centaines de vues. Donc, c'est pas quelque chose qui est extrêmement populaire. Mais je vois justement Pascal Bérubé qui raconte là, son anecdote de justement d'avoir se trouvait comme par hasard à Montréal, au centre-ville, texte François Legault. Se ramasse finalement, François Legault lui dit viens me rejoindre au bureau du premier ministre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est sur Sherbrooke, coin Sherbrooke et McGill College, donc c'est vraiment centre-ville de Montréal. Et il raconte ça. Moi, je pense que le scandale là-dedans, c'est qu'évidemment, là, faut tout expliquer à partir de zéro parce que les gens, finalement, après tout ce temps-là, disent ouais, mais finalement, c'était pas si grave que ça. Mais il faut comprendre qu'à ce moment-là, on se situe à peu près. L'événement là, avec tout le travail que on a fait un peu un crowd sourcing, si tu veux, d'informations, et on situe à peu près l'événement autour de février 2021. Donc, au pire de la crise là, des mesures, c'est là qu'il y avait un couvre-feu établi au Québec. Il y avait une interdiction de gens, rappelle-toi, la folie des bulles, là, des gens de bulles différentes ne pouvaient pas se rencontrer ou presque.
Oui, on était revenu de l'été, là, puis on a imaginé que McKinsey avait préparé des petits PowerPoints au gouvernement pour qu'ils puissent avoir des zones rouges, des zones vertes, des zones jaunes. C'est important aussi la chronologie. C'est difficile de faire une nouvelle comme ça parce qu'on a la chronologie. On a vécu pendant à peu près deux ans et demi, des hauts et des bas. C'est vraiment des montagnes russes émotionnelles et d'ajustements. Et donc, il y a eu tellement de modifications très rapidement qu'on oublie un peu le fil des événements. Donc, c'est important de faire cette chronologie-là.
Puis c'est important aussi, puis on voit aussi, tu sais, avec les médias sociaux, on voit aussi qu'est-ce que M. Bérubé disait à cette époque-là. Une semaine avant ou une semaine après ou dans la même semaine, disons en février, Pascal Bérubé demandait, parce que Pascal Bérubé est député de Matane-Matépédia, qui est une région, tu sais, au-delà du Bas-Saint-Laurent, fait que c'est quand même quelque chose de rural. Donc, il y avait eu beaucoup de personnes âgées aussi dans ces régions-là. Donc, il y avait quand même une peur encore présente à cette époque-là. Et on déduit que les citoyens demandaient, en fait, Pascal Bérubé a demandé de fermer la région, parce qu'il y avait eu, rappelle-toi, au début de la crise, il y avait eu une fermeture, il y avait des barrages routiers là, pour empêcher les gens de changer de région, si tu veux. Pascal Bérubé demande au gouvernement du Québec de réinstaurer ces barrages routiers-là dans le but de stopper les touristes qui seraient portés à aller, par exemple, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, pour la chemin de relâche en mars là, 2021. Donc, je pense que ça, c'est une des parties importantes du scandale où, d'un côté de la bouche, M. Bérubé demande de fermer sa région et de l'autre côté, on se rend compte qu'il fait un sac à 7 avec le premier ministre là, à Montréal.
Jonathan Hamel, encore une fois, une histoire qui est révélée par des citoyens et non des journalistes mainstream. tu penses du traitement médiatique de cette affaire-là? Si on peut parler d'un traitement médiatique, là.
En fait, ça n'a même pas été traité, Jérôme. Là. Dans un article proprement dit, ça n'a été aucunement traité. Ça a été traité uniquement par des chroniqueurs. Ça a été traité par des chroniqueurs de Québécois qui ont été délégués là, pour abattre, si tu veux, le messager qui, en ce qui concerne... parce que dans le fond, ils ont pu retourner la situation envers Éric Duhaime qui, lui, l'avait repris. En disant, ben là, Éric Duhaime revient encore avec la pandémie pour exciter sa base d'extrémistes. Donc, ça a été complètement viré à l'envers, comme si c'était la faute d'Éric Duhaime, cette histoire-là. Alors que, sur le fond, on s'entend que nous, on ne s'offusque pas que deux personnes aient pris du vin ensemble. Le scandale, c'est le fait que ces gens-là sont les législateurs qui nous ont enfoncé ces décrets-là dans la gorge. Et on se rend compte que en fait, c'est l'État voyou. L'État ne respecte même pas ses propres décrets, ses lois et décrets. Ce qui était bon pour la plèbe, rappelle-toi, Jérôme et Francis, on envoyait quand même la police sur le terrain des gens qui faisaient un feu là, avec quand même une distanciation. Fait que tu vois quand même qu'on c'était pas la même. C'était pas les règles n'étaient pas appliquées de la même façon pour tout le monde.
Non, c'est ça. Mais je reviens quand même au traitement médiatique. Il y a eu une sorte d'éclipse. On sait, bon, c'est le budget qui est survenu. Les grands médias ont fait presque exprès de ne pas relayer cette nouvelle-là. Certains l'ont fait, d'autres pour la minimiser finalement ce qu'elle sa signification. Donc, qu'est-ce que tu penses? Il faut le dire aussi, le Mathieu Bocoté, bon, qui décrit le scandale comme étant un scandale bidon. Comment tu vois ça, Jonathan Hamel?
Écoute, il faut dire que tout ce qui touche... La montée dans les sondages du Parti québécois, à mon avis, est une anomalie, là, dans le sens que c'est pas organique, dans le sens où c'est beaucoup poussé par les médias. Je pense que son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, n'a pas été challengé depuis quoi la fin de l'élection 2022. C'est beaucoup poussé par Québécois également, qui finalement s'est retourné envers la CAQ. Là. Donc, la CAQ, maintenant, Québécois couvre, je te dirais, adéquatement tous les scandales de la CAQ, beaucoup plus qu'avant. Donc, je pense que ça joue pour beaucoup. Là. Tout ce qui est Québécois n'ont pas traité la nouvelle, mais ont délégué ça à des chroniqueurs comme Mathieu Bocoté, qui, curieusement, a quand même utilisé pas mal tout le coffre à outils de cancellation dans son langage là, de sa chronique, en traitant là, pratiquement Éric Duhaime de faire un peu du dog whistling pour appeler à sa base, qui finalement, on comprend que dans ses propos, que Éric Duhaime ne peut rien faire d'autre que ça, alors qu'Éric Duhaime parle de plein d'autres sujets, il a parlé du budget, il a parlé amène quand même des discussions sur différents enjeux. Mais Mathieu Bocoté, je pense, a ramené la discussion uniquement sur le fait qu'on revient sur la pandémie, alors que c'est... Il faut bien y revenir. Il n'y a jamais eu vraiment de constat et de post-mortem de ça. Et on se rend compte que... Parce qu'il faut le rappeler, rappelle-toi, le premier ministre britannique, Boris Johnson, avait dû démissionner. Rappelle-toi, c'était le Partygate.
Non, ceci, il y a un parallèle très, très net à faire.
Exact. C'est sûr que
Québec,
c'est pas...
évidemment, on n'est pas très, très centré sur l'international, ouvert, donc à l'international. Donc, forcément, on n'a pas fait ce parallèle-là qui était très facile à faire, là.
Exact. Puis c'est sûr que Boris Johnson, c'était une série de parties. T'sais, il faisait des cocktails, je pense, tous les vendredis soirs au 10 Downing Street. Là. C'est quand même pas rien, alors que les gens étaient confinés. Mais c'est quand même, je te dirais, c'est quelque chose qui a été assez commun de voir. Tu te rappelles, il y avait Neil Ferguson, l'épidémiologiste, là, qui avait modélisé, il disait qu'il allait avoir 3 millions de morts au Canada. Finalement, on s'est rendu compte que ce gars-là, enfreignait le couvre-feu, et pas le couvre-feu, mais le confinement britannique pour aller voir sa maîtresse. On se rend compte que ces gens-là n'avaient aucune considération pour les règles qu'ils enfonçaient dans la gorge des gens. Je pense que ça en dit long. Ça en dit long aussi sur une partie importante, Jérôme, pour moi, c'est que le fait que Pascal Bérubé, à l'époque, est un des chefs d'opposition au Parlement, et qu'à ce moment-là, le Parlement est suspendu. Là. On a une gouvernance par décret au Québec. Le Parlement est suspendu de par l'état d'urgence. Et on a un des chefs d'opposition, parce que allez écouter la capsule là, qui a été, dans le fond, une chance qu'on l'a sauvegardée, parce que c'est drôle, parce que ces gens-là clament à la fois que c'est pas un scandale, c'est rien, mais de l'autre côté, ils ont quand même fait retirer la vidéo. Là. Donc, on comprend qu'il y a peut-être quelque chose là s'ils l'ont fait retirer. Donc, Pascal Bérubé, qui est chef de l'opposition, et l'essence même du vidéo, c'est Pascal Bérubé qui affirme, dans le fond, qu'il y a une proximité avec François Legault. Donc, on comprend que le chef du Parti québécois, qui est un des chefs de l'opposition de l'époque, a des canaux privilégiés avec le premier ministre du Québec. Et une des parties du scandale encore, parce que c'est un scandale à multiples facettes, c'est le fait que Pascal Bérubé, chef du Parti québécois et chef d'opposition, un des chefs d'opposition de l'époque, n'ait pas utilisé ses canaux privilégiés pour plaider pour les Québécois qui souffraient de ces mesures-là. Donc, on se comprend que dans une crise comme ça, sans précédent, selon leur dire, la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est de jaser du bon vieux temps là, du mouvement souverainiste autour d'un verre de vin pendant une tempête de neige à Montréal.
Monsieur Bérubé peut-il arriver à ce podcast-là, qui est assez anonyme, effectivement, et déballer ça de manière tout à fait nonchalante, c'est-à-dire qu'un naturel assez frappant. Donc, monsieur est très fier, finalement, de raconter son histoire. Qu'est-ce que ça traduit, cette attitude-là, Jonathan Hamel?
Écoute, moi, j'ai fait une comparaison, un film que je pense que tout le monde doit voir et que j'écoute probablement sur une base annuelle, The Big Short. Là. Un des autres protagonistes, en fait, à un moment donné, ils disent « On va aller sur le terrain pour voir c'est quoi l'état du marché hypothécaire. » Fait qu'ils se rendent en Floride pour voir des espèces de peddlers de prêts hypothécaires. Puis ils se rendent compte que ces gars-là déballent tout leur sac et disent « Bon, nous, on fait des prêts à des gens qui n'ont même pas de revenus. Nous, on revend ça aux banques par après. » Puis à un moment donné, le gars, il se retire. Il va voir ses partenaires, il dit « Je comprends pas ». Il dit « Pourquoi qu'ils admettent tout ça ?» Là, l'autre gars, il dit, un des autres partenaires, il dit « Non, ils admettent pas, ils se vantent. » Donc, moi, je pense que c'est exactement la même chose avec Mathieu Bocoté. Pas Mathieu Bocoté, pardon.
deux fois.
C'est ça, ben, c'est toujours les pays qui sont tous dans le même bateau, hein, dans le même panier. Ouais, donc,
du moins dans la partisanerie.
Donc, au final, dans le fond, je pense que c'est exactement le même concept. Monsieur Bérubé, dans le fond, utilise... C'est littéralement, il fait du bragging pour utiliser un anglicisme. Il se vante de dire, moi, j'ai accès, ça m'a pris qu'un seul texte pour avoir un 5 à 7 avec le premier ministre en pleine pandémie, parce qu'il le dit très clairement, c'est en pleine pandémie. Là. Donc, je pense que ça révèle beaucoup de Pascal Bérubé, qui a toujours, je te dirais, eu une marque au Québec de bon politicien que tout le monde aimait, que... Je pense que là, ça vient de révéler un certain élitisme. Et finalement, on se rend compte que c'est tout le même monde. Là. Moi, je pense que ce scandale-là, la conclusion, c'est que PQ égale CAQ. C'est 80% de la CAQ est formée d'anciens membres du PQ. Le staff politique, les conseillers du premier ministre, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le camp péquiste. Donc, on peut présumer, on vient de sortir du budget, là, j'imagine qu'on va faire du pouce là-dessus, avec un 11 milliards de déficit. On peut s'attendre à, et moi je pense que c'est ça un peu le paroxysme au Québec actuellement, c'est qu'à la fois qu'on a une chute de la CAQ, alors qu'on se rend compte qu'il n'y a plus rien qui marche, et qu'on a une montée du PQ, alors que c'est les deux côtés d'une même médaille.
Là. C'est décevant quand même la part du PQ, qui a quand même réclamé une commission d'enquête indépendante. Bon, ça, une demande qui, bon, dans les circonstances, c'est peut-être un peu symbolique, là, après avoir collaboré pas au sens évidemment de l'occupation, là, avoir collaboré au régime sanitaire pendant tous ces mois-là. Mais moi, je m'attends à plus de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est-à-dire que je ne suis pas. J'ai beaucoup de réserves sur le programme du PQ, puis que j'ai dit souvent, moi, la seule idée avec laquelle. À laquelle j'adhère dans le programme du PQ, c'est la souveraineté. Toutes les autres idées, c'est non. Tu sais, y en a peut-être quelques-unes, là, mais je m'attends à plus de moi de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui quand même, je pense, est plus éthique que ça, que Pascal Bérubé, de comment il est apparu. Enfin, je ne veux pas être trop romantique là, face au PQ, mais je pense que... Enfin, j'espère que Paul Saint-Pierre Plamondon a reçu ce développement-là de manière assez perplexe. Et j'espère qu'il a été déçu un peu, d'une certaine façon, de son député. Je l'espère sincèrement.
Ben oui, puis il y a quelque chose là-dedans aussi, Jérôme, c'est que purement sur la base marketing, communication politique, il y a un manque de jugement flagrant là-dedans. Là, dans le sens que...
Ben oui, c'est ça. C'est, ben oui.
On parle quand même de... Demain matin, le PQ prend le pouvoir. Pascal Bérubé serait probablement un des ministres majeurs du cabinet. Donc, il y a quelque chose là-dedans, je pense, de révélateur sur la personnalité de Pascal Bérubé qui n'a jamais été vraiment révélé avant. Là. Moi, je pense que ça, c'est un... Il n'y a pas de retour en arrière pour Pascal Bérubé là-dessus. Je pense qu'il a été exposé comme quelqu'un d'élitiste, alors que c'est quelqu'un qui a toujours été présenté comme l'espèce de gouverneur de Matane Matapédia que tout le monde aimait. Là.
Et qu'est-ce que ça dit sur l'état de droit au Québec? Parce que si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé en Angleterre, il y a eu démission de Boris Johnson, il y a eu un scandale, il y a eu des médias, il y a eu des questions, il y a eu... ça a été important quand même, cette démission pour peut-être le rétablissement de l'état de droit. Qu'est-ce que ça dit justement au Québec s'il n'y a pas de scandale, s'il n'y a pas de couverture, s'il n'y a pas de démission? Je suis en train de lire un livre justement sur la psychopathologie du totalitarisme de Ariane Bilran, et elle montre qu'à la sortie d'un État totalitaire, même si c'est un État totalitaire d'exception dans un court laps de temps, il est important de rétablir l'État de droit. Et elle dit, et là je la cite, là, il est essentiel de ne pas déresponsabiliser tout le monde, même les adultes ayant été manipulés par la propagande totalitaire. Donc, il doit y avoir des coupables pour le rétablissement de l'État de droit. Et donc, si ça n'a pas eu lieu, s'il n'y a personne qui doit subir des conséquences de ces actes durant cet épisode, peut-être que ça montre que soit on n'a jamais été dans un état de droit.
Non, c'est ça. Au moins un coup politique
Oui, c'est ça, et des conséquences.
Mais écoute, t'as absolument raison. Moi, je pense que le fil conducteur de ce qui ne marche pas au Québec, c'est qu'il y a un mépris. À quel point, tu sais, moi, j'appelle ça l'État voyou, là, parce que constamment, l'État brime ses propres gardes. On l'a vu au fédéral avec l'état d'urgence, on se rend compte que finalement, la Cour fédérale a complètement détruit le gouvernement Trudeau sur l'établissement de l'état d'urgence. Il n'y a aucun constat qui est fait de ça, on va automatiquement en appel. Il y a le gouvernement de François Legault, c'est un gouvernement qui est liberticide, qui déploie des lois, on pense qu'à la loi 96, à la loi 21. C'est un gouvernement qui a un mépris pour les lois naturelles, c'est-à-dire le droit à la propriété privée. On exproprie au Québec sans aucun arrière-pensée. Il y a un mépris pour... Il y a toujours l'espèce de concept abstrait de droit collectif, alors que c'est quelque chose qui est totalement inexistant. Là. On peut toujours empiéter sur les droits et libertés individuelles quand c'est le temps, justement, de défendre, entre guillemets, la langue, le Québec. T'sais, c'est très abstrait. Et il n'y a pas de société civile au Québec qui va aux barricades pour justement défendre ça. Quelque chose qui est beaucoup plus présent, je te dirais, Francis, dans le monde anglo-saxon. Là. C'est pas anodin de penser, de voir que le mouvement des camionneurs, c'est parti de l'Ouest canadien et que ça a été joint par des petits villages gaulois comme La Beauce. Après ça, oui, il y a eu un mouvement québécois qui a suivi, mais c'est quelque chose qui... Je pense que le respect de l'État de droit et des processus établis, ben ça, c'est important aussi, là. Il faut rappeler que pendant 2 ans, ou 1 an ou presque, le Parlement a été suspendu. Il y a 17 milliards de dollars qui ont été donnés sans appel d'offres, qui normalement doivent passer par un certain processus établi de comité d'appropriation. Il y a des crédits budgétaires. Donc, oui, l'État est super inefficient. Il y a des gaspillages, il y a des scandales, mais il y a quand même un certain contrôle. On ne peut qu'imaginer qu'est-ce qui se cache derrière. Je ne dis pas que c'est 17 milliards qui ont été donnés à des amis, là, mais il y a quand même, ne serait-ce qu'un % on perd quand même de montants qui sont quand même faramineux. Là.
Mais en même temps, s'il n'y avait pas d'état de droit avant, ou s'il n'y a pas eu de retour à un véritable état de droit avec des processus qui sont des remparts contre le règne de l'arbitraire, est-ce que peut-être cette façon de faire a eu des impacts sur le déficit budgétaire de 11 milliards là, qui a été annoncé en début de semaine?
Bon, absolument. Écoute, les gens ont tendance à oublier. C'est que, en fait, il y a des conséquences. À la fois, ces gens-là balaient du revers de la main le Vinogate en disant que c'était rien, mais il y a encore des causes, Jérôme et Francis, devant les tribunaux de gens qui contestent leur contravention de 1 500. Donc, elle est là, je pense. Ça, c'est une partie du scandale. T'sais. C'est le traitement, différent que autant les dirigeants que les gens qui avaient des passe-droits. Et je pense que Jérôme t'en parle souvent, où les gens qui étaient relativement aisés ont vécu cette période-là au chalet à Saint-Sauveur en toute quiétude, alors que la mère monoparentale dans Saint-Michel était poignée avec les enfants qui n'avaient plus d'activité. Donc, moi, je pense qu'il est là le scandale de la pandémie. C'est à quel point ça a été une attaque sur les plus pauvres de la société et les jeunes. Maintenant, tu dis, Francis, quel a été l'impact? On voit, premièrement, la montée de l'inflation, ça, c'est important de revenir à la base, là, parce que si on nous présente ça un peu, d'ailleurs, j'ai écrit un billet là-dessus, là, l'inflation n'arrive pas comme le printemps. Vous pouvez aller voir l'extrême-droite.com, c'est un peu un clin d'œil, là, l'extrême-droite.com.
Sur Substack.
Exact, sur Substack, vous allez pouvoir trouver cet article-là. Dans le fond, je dis que l'inflation n'arrive pas comme le printemps parce qu'on nous présente ça un peu comme une plaie d'Égypte qui nous est tombée dessus après la pandémie, alors que c'est quelque chose, c'est une blessure auto-infligée. On a, écoute, d'ailleurs, le Canada est un des pays qui a le plus dépensé dans le monde là, pour gérer cette crise-là. Ça dépasse l'entendement. Justin Trudeau a, à toute fin pratique, doublé la dette en espace de 3 ans. C'est du jamais vu, là. Donc, cet influx de masse monétaire aussi drastique, aussi rapide, ça a un impact sur l'inflation. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte, parce que l'inflation, ça a toujours été un peu théorique. Là. Pour notre génération, on n'a pas connu vraiment... On a grandi toute notre vie adulte dans un monde où les taux d'intérêt ont été les plus bas en 5000 ans d'histoire documentée. Là. Donc, et le fait qu'on présente maintenant des taux d'intérêt au Canada là, à 5 % comme étant des taux élevés, c'est complètement ridicule. Là. Donc, c'est le taux moyen, même c'est plus bas que le taux moyen là, sur 5000 ans qui dépasse souvent les 6-7 %. Donc, pour revenir à la base, l'inflation qui arrive maintenant, c'est une conséquence directe de l'émission de dette des gouvernements, l'émission record de dette des gouvernements depuis début 2020. Et ça, ça a un impact, je te dirais, sur le budget, parce que le service de la dette, tu vois, pour donner un exemple, pour l'exercice 2024-2025, le gouvernement du Québec va devoir emprunter près de 40 milliards de dollars pour son roulement, pour financer les programmes, mais aussi racheter la dette qui vient à échéance. Parce que, tu sais, la dette, c'est pas un seul pot, si tu veux, c'est pas un seul gros prêt de plusieurs centaines de milliards, c'est plusieurs dizaines, des fois même centaines d'émissions différentes à différents moments, avec différentes maturités aussi. Il y a des prêts à court, il y a des bons à 2, 3, 4, 5 ans, il y a des bas de 10, 20, 30, même 50 ans, je crois. Donc, quand ces bons du Trésor-là viennent à échéance, les obligations du Québec, ben, il faut les renouveler, c'est-à-dire on refinance ça, mais actuellement au taux qui est beaucoup plus élevé, on parle du double, des fois même le triple du taux auquel ces bons-là ont été émis là, il y a plusieurs années. Donc ça, ça a un impact direct sur le poids budgétaire. En fait, juste le service de la dette va exploser avec ça.
As-tu été surpris quand c'est survenu, ben, quand on a fait l'annonce du budget? Moi, j'ai été surpris parce que je me disais le gouvernement est tellement populaire qu'avec ce genre de mesures-là, d'annonces, c'est clair qu'il va continuer à baisser dans les sondages. Comment tu as reçu ça quand c'est arrivé? Là, cette
semaine? Je pense que tout le monde, je pense qu'on s'attendait, je pense que le consensus était au-delà de tu sais quoi 5, 6, 7, 8, parce que les prévisions, je pense, au début, c'était 4 milliards de déficit. Puis là, on est quand même à 11, donc c'est quand même majeur. Donc, je pense que l'ampleur a surpris tout le monde. Et je pense que ce qui a surpris les gens, entre guillemets, éveillés, là, c'est de voir à quel point ces gens-là présentent ça comme si c'était rien. Tu sais, on voit des photos de M. Legault et M. Girard. M. Girard,
souriant,
le pouce dans les airs.
Il n'y a
aucune...
Jusqu'aux oreilles, c'est-à-dire.
Si on parlait, par exemple, d'une compagnie privée et que c'était des résultats d'exercices financiers, l'action chutait de 50-60% dès l'ouverture des marchés le lendemain matin. Là. Dans le sens, c'est quelque chose, une surprise de telle ampleur, là, de résultats aussi catastrophique et une surprise d'une telle ampleur par rapport aux résultats qui étaient anticipés, c'est le genre de réaction qu'on verrait des marchés financiers. Mais de voir à quel point ces gens-là nous présentent ça avec des... Et c'est drôle parce qu'à la fois, encore une fois, on nous dit qu'on est sorti de la pandémie, qu'il faut arrêter d'en parler, mais M. Girard, le ministre des Finances, nous dit que c'est justement à cause de la pandémie, encore une fois, c'est à cause des feux de forêt.
Ben, c'est ça, ça c'est incroyable.
C'est à cause
que la faute sur les catastrophes naturelles et la COVID.
Ben oui, un genre d'animisme, catastrophisme naturel, les feux de forêt.
Et M. Girard a même dit que, il y avait eu un virus, trois virus qui auraient eu un effet comparable à la COVID. Et là, il disait que dans le système de santé, ça expliquait encore une fois là, les dépenses. C'est assez incroyable quand même de se responsabiliser comme ça en pleine sur un plateau de
télévision d'État. Il n'y a aucune prise de conscience. Puis, écoute, il y a quelque chose de majeur là-dedans. Francis, tantôt, tu parlais de l'état de droit. Il y a quand même au Québec une loi sur le déficit zéro, c'est-à-dire que le gouvernement n'a pas le droit de faire un déficit. S'il en fait un, il doit justifier pourquoi, et comme c'est le cas, par exemple, dans le cas de la gestion de la pandémie dans les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2023-2024. Et il doit avoir, dans la loi, c'est écrit que tu dois avoir un plan de retour à l'équilibre budgétaire d'ici les 5 prochains exercices. La CAQ a constamment repoussé ça. Et ce qui est scandaleux dans ce budget-là, c'est qu'il n'a aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire. Ils ont dit qu'ils allaient établir un comité pour éventuellement tabler là-dessus dans la prochaine année. Donc, une des fraudes, je crois, de la CAQ, c'est qu'on nous a toujours présenté ça un peu comme, rappelle-toi, tu sais, l'élection de 2018. M. Legault, puis il y avait quand même Charles Sirois là-dedans. Donc, ça a toujours été présenté un peu comme c'est des gens qui viennent du milieu des affaires. Donc, on va avoir, c'est une alternative avec les libéraux à la fois, à l'époque, qui était présenté un peu comme le parti de l'économie. Donc, la CAQ a un peu volé ça aux libéraux, volé un petit peu le flambeau de l'économie aux libéraux de l'époque. Mais on se rend compte que, dans le fond, on a le pire des deux mondes. Là. On a la corruption libérale avec les gros déficits et les gros gouvernements du PQ. Donc, c'est absolument scandaleux.
Et pour finir sur une note plus positive, est-ce qu'il y a quelque chose, justement, que tu vois qui valait la peine d'être fait et qui va peut-être ramener le Québec dans la bonne direction?
Je pense que la seule chose qui est positive dans ce budget-là, c'est l'abolition partielle des subventions aux véhicules électriques. Ça va passer, je pense, de 7 000 à 4 000 $ dès 2025. Et par la suite, je pense que c'est complètement éliminé. C'est quelque chose, je pense, qui était plus que nécessaire. Les gens qui achètent ces véhicules-là, souvent, font partie des gens les plus âgés de la société. Et encore une fois, si c'est quelque chose qui est tellement révolutionnaire, je ne pense pas qu'on aurait besoin de le subventionner. Ça, c'est une bonne chose. Je pense aussi, j'écoutais le Dr. Karim El Ayoubi, qui est le porte-parole en santé du Parti conservateur du Québec, mentionner que je crois qu'en partie, le financement à l'acte va être impl... je pense pour les chirurgies ou certaines actes, là, vont être donc le financement à l'acte plutôt que par budget récurrent. Là. Donc, c'est-à-dire que les établissements sont financés au nombre de patients qu'ils traitent, donc tu as une espèce d'indicateur de performance là-dedans, alors que je te dirais que la façon de faire actuelle est de financer là, par budget récurrent plus une augmentation annuelle, donc tu n'as personne qui est redevable là-dessus. Mais tu sais, surtout les promesses que le PQ avait ben, tu vois, je le mêle avec le PQ tellement ils sont proches, les promesses que la CAQ avait fait, notamment de développer des établissements de santé privés en réponse à la montée du Parti conservateur du Québec en campagne, il n'y a absolument il y a pas de suivi là-dessus. Il n'y a personne qui parle de ça.
Non, rappelez-vous que la CAQ était... En terminant, la CAQ se présentait comme un parti de droite économique. Il faut s'en rappeler. Là. Il y a quand même encore
quelques années.
Donc, c'est une arnaque assez incroyable. On est dans la fausse représentation. Ça, il faut le rappeler.
Rappelle-toi le livre que Québec... Je pense que c'est pour un Québec gagnant, quelque chose comme ça, le livre que François Legault avait écrit en vue des élections de 2018. On parle quand même d'exploiter les ressources naturelles. C'est un gouvernement qui a quand même fait tomber GNL Québec. Il y a un moratoire sur l'exploration du gaz au Québec. D'ailleurs, il y a des compagnies d'exploration qui poursuivent le gouvernement pour plusieurs dizaines de milliards. Donc, c'est un gouvernement qui n'a aucune considération pour, comme je disais tantôt, les processus établis avec des lois liberticides comme 96. Il faut le rappeler, il y a quand même une espèce de gestapo linguistique au Québec où des inspecteurs peuvent débarquer dans les entreprises et inspecter tous les ordinateurs et les communications internes. Je ne parle pas là des...
On pourra parler un peu là, de cette fameuse loi 96, quand même sur laquelle des avis divergents. Là. Mais oui, c'est un autre sujet sur lequel, effectivement, on pourra revenir. Mais je te laisse quand même terminer ta phrase.
Non, c'est ça, mais dans le fond, c'est ça. Je disais, c'est pas comme la loi 101 où c'est purement l'affichage extérieur. Ça, je veux dire, il y a une certaine justification. Mais là, on est vraiment dans les processus internes, les communications inter-employées. Donc, je pense qu'encore une fois, ça démontre le mépris de ce gouvernement-là.
Mais c'est paradoxal. C'est-à-dire, cette loi-là, d'un côté, il y a des gens qui disent que c'est une loi de pacotille, ça va rien régler, c'est rien. Donc, tu as vraiment ce point de vue-là qui dit vraiment c'est nettement insuffisant. Et de l'autre, des gens plus près du PCQ qui vont dire c'est une atteinte fondamentale aux libertés fondamentales. Donc, ça, on dirait que c'est pas clair quand même sur cette loi-là. Non, il y a quand même un paradoxe, moi, quelque chose de très polarisant là, sur cette loi-là. Parce que vraiment, il y a les deux avis. Il y a des gens qui disent c'est rien, ça ne va rien changer. Bon, plus près des nationalistes. Et d'autres, ils voient une attaque frontale aux libertés. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu au milieu de ça, là?
Écoute, non, moi je pense que la loi doit être abolie. Je pense que c'est quelque chose en même temps, c'est toujours. Je pense que ça revient le débat. Tu disais tantôt, la seule chose qui est intéressante dans le programme du Parti québécois, c'est la souveraineté. Je suis d'accord. Je veux dire, mais si on nous présentait, moi je ne suis pas fermé à l'idée. Je veux dire, en tant qu'investisseur gestionnaire, tu me présentes n'importe quel projet quand ça fait du sens, on s'y intéresse, on va signer une lettre d'intention. Mais la façon dont ce projet-là est présenté, et surtout avec le recul de ce qu'on voit, comment le PQ a réagi aux différents tests des dernières années, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer un Québec indépendant plus libre par après. Et je pense que c'est ce que la plupart des gens d'opinion, disons de droite, critiquent le Parti québécois des derniers mois sur le fait qu'eux ont des lignes très, très, je te dirais, très, très primaires à l'effet que, ben vous, les gens de droite, vous devriez aimer le fait qu'on va éliminer un pan de gouvernement complet. Oui, OK, c'est bien, mais à quel prix, là?
On va y revenir, c'est un énorme sujet. On reviendra sur cette possibilité d'un Québec libre ou moins libre. C'est un énorme sujet. Merci, Jonathan Hamel.
Je rappelle que on peut te suivre sur les différents réseaux sociaux et notamment sur X au A commercial J Hamel, H-A-M-E-L. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on espère de te revoir là, d'ici, d'une manière récurrente peut-être, hein, si jamais ça t'intéresse. Le podcast est bien ouvert à toi.
Merci beaucoup.
Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants.
Comme on en a parlé au début de l'émission, tu es actuellement à Oaxaca. Oaxaca qui est au Mexique et tu as eu l'opportunité de rencontrer un Québécois sur place, docteur qui cumule 38 ans de pratique à titre de médecin de famille et qui a eu peut-être des échauffourées avec le gouvernement durant la crise sanitaire. Okay. Qui est Robert Béliveau et pourquoi son dossier est important?
Oui, Robert Béliveau qui est un des seuls médecins à avoir qui est ouvertement les mesures sanitaires, du moins certaines d'entre elles, mais on pourrait dire la plupart d'entre elles. Donc, c'est un médecin retraité. C'est également l'un des fondateurs de l'organisme Réinfo COVID, qui est devenu Réinfo Québec. Donc, Robert Béliveau est de passage à Oaxaca. Donc, j'en ai profité pour faire une grande entrevue avec lui qui est publiée sur le site de Libromédia. L'article est intitulé Le combat de Robert Béliveau pour la liberté d'expression. Donc, un médecin, d'abord, quelqu'un de très sympathique, un esprit libre et qui, effectivement, actuellement, est aux prises avec un litige avec le Collège des médecins qui lui reproche des propos qu'il a tenus en 2021 sur les mesures sanitaires, alors qu'il n'était plus, en fait, membre actif du Collège des médecins. Donc, c'est un petit peu technique. Robert Béliveau a reçu 3 plaintes à son encontre durant qui concernent ses propos sur la gestion de la pandémie. Et donc là, prochainement, il va y avoir une audience avec le Collège des médecins où il devra faire appel à un avocat là, pour le défendre. Donc l'histoire est à suivre, est en suspens. Mais c'est intéressant parce que l'article vraiment revient sur son parcours comme médecin, son approche. Hein, quelqu'un qui a essayé de trouver des alternatives à la médecine moderne, là où elle ne fonctionnait pas. C'était dans un contexte, évidemment, de surmédication. On sait qu'au Québec, en Occident en général, on consomme des médicaments à gogo. Donc, c'est vraiment le recours systématique aux médicaments, le Ritalin chez les enfants, etc. Donc, vous comprenez la logique. Donc, c'est un médecin qui a une approche véritablement humaine de la médecine. Il faut comprendre, évidemment, le parcours de Robert Béliveau pour comprendre son engagement durant la crise sanitaire. Donc, quelqu'un de courageux aussi, il faut le dire. Hein. Toutes les personnes qui ont osé s'élever contre ces mesures abusives sont des personnes courageuses. Et donc, mais c'est un beau hasard que de nous être retrouvés les deux en même temps à Oaxaca. Donc, c'est une ville où il peut y avoir effectivement où on peut rencontrer des mésaventures, comme je l'ai raconté tantôt. Mais il y a beaucoup de Québécois aussi, hein, en passant. Ça fait quand même plusieurs Québécois que je rencontre ici. Hier, au marché public, une femme m'a interpellé, une Québécoise qui est une expatriée, qui, elle, a pris la décision de quitter le Québec suite à
à la crise sanitaire, mais un peu devant le déclin général de la société québécoise. Il y a de plus en plus d'expatriés, en passant Francis, là, québécois, et ce serait intéressant de faire le recensement de combien de Québécois ont quitté le Québec depuis la crise sanitaire. Je pense que les chiffres pourraient nous surprendre. Moi, je pense que c'est plusieurs dizaines de milliers. Évidemment, il y a là-dedans ce qu'on appelle les nomades digitaux. Donc, évidemment, plusieurs personnes qui profitent du télétravail pour aller travailler finalement sous avec un climat plus agréable. Donc, évidemment, c'est cette donnée-là. Mais il y a une sorte d'exil tranquille des Canadiens français, si on peut les appeler comme ça. Un peu comme à l'époque,
on sait. Explique ça, selon toi, Jérôme.
Ben, c'est le climat social. Hier, la dame en question, là, dont je vais respecter l'anonymat, la Québécoise qui m'a approché au marché public, me racontait que, bon, elle était très inquiète, par exemple, du budget, puis de... Est-ce que par exemple, l'État québécois va être capable d'assumer dans 20 ans les fonds de pension? Parce qu'on sait quand même la situation économique au Québec est inquiétante. Donc, il y a un volet économique qui préoccupe plusieurs expatriés. Puis le climat social, c'est-à-dire qu'on sent que le Québec ne traverse pas sa période la plus dynamique de son histoire. Mais il y a un traumatisme aussi, COVID, là, Francis, là, c'est très clair. La crise sanitaire a été un déclencheur. Donc, tu sais, on peut bien dire que, bon, c'est une gang de radicaux, de mécontents, qui sont des marginaux, qui, eux, ceux qui se sont opposés au gouvernement, puis finalement, ces mécontents-là ne représentent rien, puis c'est pas significatif en termes de... Ça n'a pas d'importance, finalement. C'est ce petit noyau-là de personnes qui ont été déçues du gouvernement durant la crise. Ces gens-là ne représentent rien, mais je pense qu'ils représentent quelque chose. Il y a forcément des séquelles. Et tous ces Québécois-là à l'étranger et au Québec, ils nous disent quelque chose sur l'état de la société québécoise. Donc, ça ne sert à rien de les ignorer. Au contraire, on ne fait que s'enfoncer dans le déni. Et s'il n'y a pas de réflexion, si on n'est pas capable de tendre la main à ces gens-là puis de leur dire, ben là, expliquez-nous qu'est-ce que votre vision des choses, votre vision du Québec actuellement, mais forcément, on va empirer la situation. Là.
Mais culturellement, là, sans avoir de rapport direct peut-être avec le gouvernement et ces individus qui ont des forts, qui ont été traumatisés par les différentes mesures sanitaires, quelles seraient culturellement des pistes de solutions pour rétablir le dialogue social selon toi?
Ben, je pense qu'il faut d'abord être capable dans les médias de donner la parole à des gens à qui on ne la donne pas. Et là, je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais le travail qu'on fait à Libre Média, c'est-à-dire donner la parole à des gens à qui on ne la donne pas assez. Ça, je pense que ça m'apparaît vraiment être la base. C'est-à-dire que si on discrimine et qu'on diabolise systématiquement des gens avec qui on n'est pas d'accord, évidemment que c'est le contraire du dialogue. Donc, tu as la presse bon, qui crée une section dialogue. C'est bien beau, mais on est encore dans la diabolisation de plusieurs groupes là, de couches de la population. Donc, ça, c'est le départ. Si on ne peut pas faire ça, évidemment, il n'y aura pas de dialogue. Il faut être deux hein, pour dialoguer. Au même titre que pour parlementer, il faut avoir des désaccords. C'est ça la démocratie. Donc, il faut être capable de débattre. Et si on a des émissions seulement ou sous la forme d'une inquisition télévisuelle, un peu comme tout le monde en parle, où bon, les gens se présentent un peu à leur procès parce que bon, c'est des gens qui sont considérés entre guillemets comme des dissidents, et forcément, on ne pourra pas arriver à un meilleur vivre ensemble. On parle beaucoup de vivre ensemble. Vivre ensemble. En espagnol, on dit convivir, c'est-à-dire vivre avec. Vivre avec. Mais est-ce qu'on est capable de vivre avec les gens avec qui on n'est pas d'accord ou on est intolérant puis on voit toute forme de dissidence, entre guillemets, de désaccord comme une micro-agression? Si on se sent micro-agressé systématiquement à chaque fois qu'on est confronté à l'autre, c'est-à-dire, t'sais, on baigne dans une société qui est apparemment diversifiée, là. La diversité culturelle, la diversité sexuelle, mais la diversité d'opinion, la diversité idéologique, elle est constamment bafouée. Donc, c'est le grand paradoxe. Mais tu m'ouvres la porte parce que tu as dit le mot culturel, évidemment. Et les Québécois au Mexique sont également attirés par le dynamisme culturel là, du Mexique. Là. C'est clair que c'est une société extrêmement vivante, qui peut être très violente aussi. Mais évidemment, il y a cet attrait-là qui est très fort. Donc, le fait que le Mexique soit une société encore très colorée, avec des liens familiaux et communautaires très forts, évidemment, va inciter ce genre de profil-là à venir s'établir dans des régions comme ici.
Puis pour faire peut-être référence au débat qu'on a eu un peu plus tôt sur la loi 96, n'est-on pas justement au bout de cette logique de l'encadrement coercitif au sens où peut-être que la loi 101 et l'ensemble de ces lois restrictives-là avaient leur lieu d'être au début des années 60, où est-ce que justement il fallait s'affirmer et rectifier une situation d'injustice qui avait lieu, mais n'avons-nous pas eu tort de les prendre comme des mesures, comme une stratégie à long terme. Peut-être que de la même manière que quand on a un petit arbre, on l'aide en mettant des supports pour qu'il puisse grandir, mais une fois qu'il grandit, on enlève les supports pour qu'il puisse se tenir tout seul. Donc, avoir une culture qui est capable de rayonner par elle-même sans avoir besoin de la coercition et de l'obligation étatique. Ne serions-nous pas peut-être dans cette situation où est-ce qu'on a encore besoin de béquilles ou de supports aujourd'hui, si nous avions graduellement enlevé l'ensemble de ces incitatifs coercitifs pour permettre à la culture de se déployer dans toute sa spontanéité, dans toute sa beauté, dans toute sa créativité?
Oui, je pense qu'on est allé au bout de la logique et que effectivement ces mesures comme la loi 101, etc., étaient au départ légitimes et efficaces. Mais que le recours maintenant à l'État systématique crée un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider la culture québécoise, on en fait une sorte de... C'est-à-dire qu'on est dans l'écologie culturelle. C'est-à-dire le Québec...
Une réserve faunique.
Oui, ce que j'appelle effectivement une réserve faunique. Puis la formule a été employée, je pense, par Fernand Dumont, là, ou une formule qui est près de ça, le grand sociologue. Donc, on n'est pas... On refait pas le monde aujourd'hui exactement. Là. Donc... C'est ça, l'écologie culturelle, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas percevoir éternellement le Québec comme une espèce en voie d'extinction. Là. Il faut être capable de croître un peu organiquement. Et la culture des subventions également. On ne peut pas toujours s'en remettre aux subventions pour nourrir la culture. Il faut que la culture émerge par la base aussi. Et c'est ça, on est allé un peu au bout de la logique. Donc au départ, je le répète, ces mesures ont permis au Québec de se déployer culturellement. Mais on peut se poser la question, est-ce que même ces mesures-là ne nuisent pas actuellement à la culture québécoise qui est devenue un peu artificielle? Hein? On entretient un peu artificiellement la culture québécoise et finalement, les gens le ressentent et auraient envie de produits culturels qui sont organiques. J'entends beaucoup de gens dire que, bon, finalement, la télévision québécoise ne les intéresse plus. Mais est-ce que la télé québécoise actuellement est représentative de ce qu'est le Québec ou de ce qu'il veut être ou finalement le reflet de critères établis un peu par des bureaucrates? Et on sait que la culture doit se conformer, en fait, à certains critères établis par dans des ministères. Donc, c'est sûr qu'à partir de là, quand on parle de liberté artistique, par exemple, quelle est la liberté artistique dans un monde où elle doit se conformer à des critères, donc de diversité, d'équité, de féminisme, etc. Donc, est-ce que Jean Leloup aurait eu besoin de subventions pour percer? La réponse, c'est non. Il aurait percé sans subvention. Puis un exemple que je donne des fois, le blues, le jazz, les Noirs américains, les Afro-Américains n'ont jamais eu besoin d'être subventionné pour inventer les meilleurs dans les styles, des styles musicaux révolutionnaires dans l'histoire de la musique. Donc, oui, le tuteur, bon, comme tu dis, au départ, OK, mais à partir d'un certain moment, un tuteur, un petit arbre, OK, mais après ça, ça empêche peut-être des branches d'aller à droite, d'aller à gauche. Tu te maintiens dans une position, finalement, artificiellement à droite. Donc, cet arbre-là, est-ce qu'il peut se déployer à droite, à gauche?
Il t'empêche de grandir, finalement.
De grandir, littéralement.
À quoi tu es appelé à être.
C'est ça, donc, exactement. Donc, carrément, de grandir. Oui, je suis assez d'accord. Et je pense qu'il y a comme... on le ressent inconsciemment. Évidemment, on a de la misère à mettre des mots sur ce phénomène-là, qui reste très complexe, là, qui est plein de non-dits, etc. Mais puis ça ne veut pas dire de plaider pour l'anglicisation, au contraire. Là, mais le Québec doit devenir une société adulte qui est capable d'évoluer sans effectivement cette tutelle de l'État qui est constante.
Mais on peut penser aussi que ça peut être assez risqué puisque justement ces 50 années de coercition ont créé un état de dépendance, ont atrophié la culture et donc aujourd'hui, on peut penser que si on enlève ces remparts, peut-être qu'elle va se faire manger parce qu'elle va être en une position de faiblesse par rapport à une autre culture qui, elle, a pu jouir de toute la liberté dont elle avait besoin pour s'épanouir. Donc, on est un peu à armes égales, mais on s'est soi-même handicapé dans la possibilité de rayonner dans cet environnement culturel nord-américain.
Oui, effectivement, on a peur, effectivement, c'est sûr, on a peur du tsunami américain, mais je pense que cette peur-là est un peu exagérée. Évidemment, on reste au nord de l'Amérique. Là. Il va y avoir des phénomènes toujours des phénomènes d'interpénétration civilisationnelle. Donc, on le voit aux États-Unis avec l'espagnol, puis ça commence à être assez sérieux. Mais c'est ça, on est allé à de l'autre côté du spectre, si je peux dire. Là. Ça nous prend une réflexion là-dessus. Et je pense que la période covidienne a été l'aboutissement, la suite logique de tout ce régime maternaliste ou paternaliste, dépendamment, et que ça explique une grande partie du malaise social actuel.
Du déclin et de cette nécessité de soutenir à bout de bras ou à bout de subvention ou à bout de déficit un système qui est en train de s'écrouler. Justement, tu as lancé, bon, on sait que sur Libre Média, libre-media.com, on a également une boutique en ligne où est-ce qu'on peut se procurer différents articles, notamment des vêtements. Et tu as lancé cette semaine ce nouveau t-shirt, hashtag mot-clé, le déclin. Et justement, on invite nos auditeurs à bien vouloir aller visiter, voir si des choses peuvent vous intéresser, puisque c'est justement dans cette optique d'une prise de conscience de ce déclin qu'on peut arriver éventuellement à se sortir et à trouver des solutions innovantes qui viennent du bas, comme tu l'as mentionné, Jérôme. Toujours sur le site de Libre Média ou libre-media.com, un autre article qui a été publié cette semaine et qui suit la situation vraiment dramatique en Haïti. Au début de la semaine, les États-Unis ont annoncé l'évacuation d'une partie de leur personnel diplomatique à Port-au-Prince. Donc, c'est vraiment une situation très grave qui se passe. Jérôme, parle-nous un peu de la situation là, à Haïti. Comment se sont déployés les événements cette semaine?
Oui, effectivement, c'est un pays qu'on suit de près à Libre Média, Haïti. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le premier ministre Ariel Henry a démissionné. Donc, il y avait beaucoup de pression là, pour qu'il quitte le pouvoir. Il y a un type qui s'appelle Barbecue, qui est un chef de gang très, très influent, qui menace encore de plonger le pays dans la guerre civile. Donc, Barbecue, ce chef de gang, réclamait le départ d'Ariel Henry, qui avait dépassé son mandat et qui, lui, était là parce que l'ex-président était assassiné, hein, Jovenel Moïse, en juillet 2021. Donc, le premier ministre, lui, n'était pas censé rester au pouvoir. Donc, lui, s'accrochait. Et finalement, sous la pression de la communauté internationale et de la société civile haïtienne, ils ont pas appelé ça comme ça, il a démissionné. Donc, il y a beaucoup d'attentes, d'espoir. Est-ce que sa démission va pouvoir permettre à Haïti de retrouver un peu de stabilité? Disons que moi, j'ai beaucoup de doutes. Je pense que Haïti, je ne suis pas certain que le fameux conseil de transition qu'on va mettre en place va réussir à stabiliser la situation. Donc, on a continué à suivre le dossier. Cette semaine, deux articles là, très instructifs. Là, une entrevue avec le sociologue Frédéric Boiron qui nous explique la situation et qui nous explique aussi le rôle du Canada, pour appeler ça comme ça, parce que finalement, le Canada n'a plus de rôle. Vraiment dans le dossier haïtien. Donc, il dit que le Canada est devenu un spectateur et un figurant. Donc, un autre symptôme du déclin du Canada sur la scène internationale. Et un article que j'ai écrit moi-même qui est revenu où je suis revenu avec Rome Chantal sur la situation, mais sur un cas précis, c'est-à-dire qu'il y aurait actuellement, Francis, et c'est très, très grave, là, des cas plausibles de cannibalisme en Haïti, parce que d'abord, ce chef-là, Barbecue, est reconnu pour carboniser ses victimes. Et il y a eu dans le passé, en Haïti, des rituels auxquels se prêtent des chefs de gang qui consistent à manger finalement un bout de leurs adversaires. Ce n'est pas des farces, là. Donc on mange le bras ou peu importe, là, une partie du corps d'un adversaire pour évidemment intimider et semer la terreur. Donc le cannibalisme comme stratégie, comme terrorisme finalement, là, que c'est une forme de terrorisme. Donc, Rome Chantal, qui est un spécialiste bon, que j'ai interviewé là, en mode vidéo il y a deux semaines, qui est revenu bon, en mode écrit ici sur la situation, donc, et qui lui nous dit que oui, c'est que ces images-là, parce qu'il y a des images qui ont circulé sur le web montrant bon, potentiellement des gens là, justement s'adonner à du cannibalisme. Certaines images bon, sont questionnables. Est-ce qu'elles ont été tournées vraiment en Haïti ou en Centrafrique, etc.? Donc, évidemment, on est à l'ère des fausses images, des hyper-trucages. Donc, il faut être très méfiant. Mais malheureusement, il nous dit, Rome Chantal, que c'est une pratique de plus en plus répandue en Haïti, que c'est, selon lui, une expression de l'ampleur de la violence en cours. Donc, je vous invite à lire l'article publié lundi dernier, le 11 mars. L'article s'intitule « Cas plausible de cannibalisme en Haïti ».
Et pendant ce temps, au Québec, on le sait, il y a souvent une hypertrophie de différentes nouvelles qui sont en réalité des faits divers et qui, dans cette émission, ont reçu le titre de « Grands enjeux ». Alors, Jérôme, quel est ton grand enjeu de la semaine?
Bien, Francis, tu le sais, ça a fait beaucoup parler dans les médias. Le changement d'heure, hein, bon, qui à chaque année maintenant suscite vraiment des inquiétudes à chaque fois. On se demande est-ce que ça va pas causer des problèmes cardiaques, combien de personnes pourraient succomber des suites du changement d'heure. C'est absolument phénoménal, imaginer recevoir ce genre d'information au Mexique où, disons, ça brasse pas mal plus. Donc, le grand enjeu de la semaine, Francis, l'article est intitulé « Un changement d'heure qui entraîne de graves conséquences ». Un article publié le 8 mars dernier sur le site de TVA Nouvelles. Et bon, on nous parle évidemment, l'article fait état d'impact évidemment gravissime sur le sommeil. Donc vraiment, encore une fois, une nouvelle forme de micro-agression. Donc je perds une heure, je suis micro-agressé. Je perds une heure, je perds le contact avec la réalité. C'est vraiment un drame humain exceptionnellement dramatique. Donc, ben écoutez, c'est mon clin d'œil de la semaine à notre chère actualité québécoise focalisée sur les faits divers.
Et avec un brin d'humour, puisqu'on le sait, l'humour permet justement de relativiser un peu toutes ces choses. Et on a bientôt, le 27 mai 2024, une conférence produite par Libre Média qui va avoir lieu. Jérôme, parle-nous un peu de cette conférence qui s'intitule « A-t-on raison d'avoir peur? » Point d'interrogation.
Oui, très content, très, très, très content d'avoir annoncé ça la semaine dernière. C'est le premier événement organisé par Libre Média. Donc, on voulait graduellement développer le volet événementiel. Donc, on se lance. Donc, l'événement va avoir lieu à Québec. C'est une conférence que je vais donner accompagnée de Jean-François Caron, le fameux prof Caron, qui, vous le savez, récemment a été cancellé d'un comité là, sur les affaires étrangères. Donc, son histoire a fait beaucoup de bruit. À Libre Média, on l'avait couverte. Tu vas, en passant, animer cet événement.
Ça va être un plaisir.
Excellent. Donc, c'est une conférence, mais également un débat, parce que, bon, contrairement à ce que certains peuvent penser, Jean-François et moi ne sommes pas d'accord sur tout, et une séance de dédicace. Donc, on invite les gens à venir d'abord nous rencontrer, nous parler, à poser leurs questions, parce qu'il va y avoir une longue période de questions du public. Donc, venir nous faire part de leurs préoccupations. Il y a plusieurs thèmes qui vont être abordés, bon, évidemment, comme tu dis, la peur, le climat apocalyptique actuel dans cette société où effectivement la peur est omniprésente. À quoi ça répond? C'est quoi cette société-là? Donc, on va essayer d'éclairer le public à ce sujet. On va parler aussi de la censure, forcément, un monde également de plus en plus dominé par la censure. On va parler aussi de la transformation du système international. Donc, a-t-on raison d'avoir peur des virus, de la Russie? A-t-on raison d'avoir peur des changements climatiques? A-t-on raison d'avoir peur du changement d'heure? Donc, toutes sortes toute cette constellation de thèmes qui, finalement, qui se rejoignent. Venez nous voir parce que vraiment en conférence, dans ce genre d'événement-là, ça crée une sorte d'ambiance qui, des fois, nous permet de dire des choses qu'on ne dirait pas nécessairement ailleurs, pas, évidemment pas des énormités, mais il y a un caractère un peu privé, intime, hein, le contact avec le public, c'est très stimulant. Donc, puis ça nous permet, c'est ça, de faire, de créer un sentiment de communauté aussi. Puis c'est important d'avoir des événements, comme on dit maintenant, en présentiel, hein, plus qu'en ligne, etc. Donc, le fait de se voir en personne, en chair et en os, assumer notre incarnation, imagine-toi donc. Donc, venez nous voir. Puis, ça va être super agréable, puis surtout super instructif, je pense.
Et dépêchez-vous de réserver vos places, puisque les places sont limitées. Et pour ceux qui voudraient se procurer des billets, vous êtes bien évidemment invités à vous rendre sur le site Internet de Libre Média ou libre-media.com. Et nous mettrons également les références dans la description de ce balado. Voilà, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com, sur X, TikTok. Et si vous avez la chance d'être à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Alors, très bonne semaine à tous. Merci Jérôme d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Francis.
Merci, à très bientôt.